C'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une la disparition d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien n'était plus l'ombre que l'ombre de lui-même depuis son AVC en 2013. Il avait 84 ans. On y revient après les autres titres, Christelle.
Fracture ouverte entre la France et ses alliés. Elle rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie après le torpillage du méga contrat australien. Nous irons à New York où les autorités font le gros dos. Il se dit candidat au débat. Éric Zemmour maintient le suspense sur son éventuelle candidature et mélange les genres entre meeting et dédicace. Le drame des implants contraceptifs est sûr. 4 ans après leur interdiction, des milliers de femmes en portent encore. Les victimes se mobilisent aujourd'hui. Et puis on retrouvera Laetitia Bernard pour les sports. Les bleus du foot, les françaises, ont atomisé leurs homologues grecs 10-0. On se croirait presque au baby-foot.
Et puis dans une vingtaine de minutes, notre invité sera Éric Ciotti, le député Les Républicains. Il est candidat pour représenter son parti à la présidentielle.
France Inter. Il avait fini par être chassé du pouvoir en 2019. Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien, est décédé à l'âge de 84 ans. Il s'est éteint dans la résidence où il s'était retiré depuis 2019. Il aura passé 20 ans au pouvoir. C'est un record en Algérie, mais l'homme providentiel des années 90 qui avait permis de sortir de la guerre civile était devenu encombrant, Valérie Crova.
Oui, encombrant et quasiment inamovible quand il prend la tête de l'Algérie en 1999, imposé par l'armée, pilier du régime algérien. Abdelaziz Bouteflika apparaît comme celui qui va sauver le pays. Sa priorité est de rétablir à l'époque la paix dans une Algérie meurtrie, marquée par les années noires du terrorisme qui ont fait 200 000 morts. Il y parviendra en faisant voter 2 lois pour amnistier les islamistes et les contraindre à déposer les armes. Par la suite, il sera réélu 4 fois, avec plus de 80% des voix, lors d'élections qui seront tout sauf transparentes. Sous ses 20 ans de règne, l'Algérie va s'enfoncer dans une crise économique liée à la chute des prix du pétrole, ce qui va alimenter la colère sociale. Le clan Bouteflika, composé de son frère Saïd, de caciques du régime et d'hommes d'affaires corrompus qui s'accaparent les richesses du pays, ce clan sera honni d'une majorité d'Algériens. Ce sont ces Algériens qui le pousseront d'ailleurs à la démission en descendant dans les rues en 2019, ulcérés de voir ce président fantôme, affaibli par un AVC qui ne parlait plus, qui ne marchait plus, briguer un 5e mandat.
Valérie Crova, mais quelles que soient les conditions de son départ du pouvoir, Abdelaziz Bouteflika laissera une trace dans l'histoire. C'est ce qu'expliquait ce matin Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales.
C'est incontestablement un moment symbolique très très fort. Finalement, Abdelaziz Bouteflika, c'est le dernier survivant de la première Algérie, c'est-à-dire celle du FLN, celle de la guerre. C'est un homme qui a commencé sa carrière en s'engageant dans les rangs de l'armée de libération nationale et qui a fait tout le parcours du pouvoir FLN en Algérie. Et c'est sur lui que s'est cristallisé ce qui est peut-être, je dirais, l'Algérie acte 2, c'est-à-dire celle qui commence avec le Hirak, avec les grandes mobilisations populaires. Il est évident que symboliquement, seulement symboliquement, puisque l'homme était déjà de facto en retrait de la vie politique algérienne, mais symboliquement, c'est le premier temps de l'Algérie qui s'est éteint avec son ancien président.
Bertrand Badi, qui était ce matin invité de Jules De Quille sur France Info. L'affaire des sous-marins australiens fait prendre l'eau aux relations diplomatiques entre la France et ses alliés. Notre pays rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Une mesure d'une exceptionnelle gravité à la hauteur de ce changement de paradigme. Les anglo-saxons s'allient pour mieux contrer l'influence de la Chine. Les États-Unis encaissent. Loïc Lourie est le correspondant de France Inter à New York.
Les États-Unis regrettent le rappel de l'ambassadeur de France. Les mots sous couvert d'anonymat sont ceux d'un responsable de la Maison-Blanche. Nous resterons engagés, dit-il, pour résoudre nos différends avec Paris, comme nous l'avons fait à d'autres occasions au cours de notre longue alliance. Face à la colère d'un partenaire historique, la première puissance mondiale semble indifférente et multiplie ainsi les déclarations sans grande portée. La France est un partenaire vital des États-Unis dans la zone Indo-Pacifique, disait notamment jeudi le secrétaire d'État américain. Quant à Joe Biden, comparé à Donald Trump par le chef de la diplomatie française, il ne s'en préoccuperait pas tellement, assure la porte-parole de la Maison-Blanche. En rappelant ses ambassadeurs, la France toutefois prend ici une décision inédite, mais cela ne devrait pas avoir la moindre conséquence à Washington où les autorités sont bien décidées à suivre leurs propres intérêts et à se concentrer sur leur bras de fer avec la Chine dans le Pacifique. New York, Loïc Loury, France Inter.
Les États-Unis espèrent pouvoir évoquer avec la France leurs différends dans la crise des sous-marins la semaine prochaine à l'ONU, où se rendra Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. C'était bien une bavure. L'armée américaine a finalement reconnu hier avoir tué 10 civils afghans innocents lors des opérations de retrait chaotiques des États-Unis fin août à Kaboul, en frappant par erreur un véhicule qu'elle croyait rempli d'explosifs.
Lui a entamé en France la tournée promotion de son livre. La France n'a pas dit son dernier mot, c'est le titre. Mais hier, on se serait cru dans un meeting.
Oui, Éric Zemmour, toujours pas candidat, mais devant une salle pleine hier soir à Toulon, le polémiste qui se définit malicieusement de candidat au débat a donné une conférence très politique, certes, mais sans sortir de l'ambiguïté, Elodie Forêt.
Une nuée de caméras l'entoure. Assis au centre, Éric Zemmour savoure l'attention médiatique, mais esquive comme d'habitude la question de sa candidature.
Je ne me suis pas réveillé un matin en disant « je vais devenir président de la République ». C'est une lente maturation. C'est à moi de choisir le moment, à moi de décider. Mon âme et conscience, c'est pas une décision facile, vous savez.
Sur scène, face à son public, Éric Zemmour entretient là aussi l'ambiguïté.
Je suis candidat au débat.
Mais égratigne au passage ses potentiels futurs adversaires, le LR Michel Barnier.
Il y en a même un qui a été commissaire européen pendant des années, qui maintenant découvre que la CEDH est un boulet insupportable.
Marine Le Pen.
J'ai découvert une autre qui, avant les vacances, disait « Non, je ne veux pas être confondu avec Éric Zemmour parce que vraiment il est trop méchant ». Et puis maintenant, j'écoute ses discours, je lis, je me frotte les yeux, j'ai l'impression de m'entendre.
Égratigné sans rien proposer, pas l'once d'un début de programme après 1h30 de conférence. Philippe, ancien adhérent LR, en attend un peu plus.
Je voudrais savoir ce qu'il vaut sur le reste de sa politique, quoi. Sur la relance de l'économie, sur tout le reste, sur l'emploi, le chômage, etc. quoi.
Des sujets économiques qu'Éric Zemmour refuse pour l'instant d'aborder, une ambiguïté que lui pardonne malgré tout. Aujourd'hui, une grande partie de ses fans.
Zemmour, candidat putatif, vous y reviendrez à 8h20 avec votre invité Éric Ciotti, le député Les Républicains, candidat à la primaire de la droite. Éric. Jean-Luc Mélenchon, lui, insiste sur le pouvoir d'achat. Le leader de la France insoumise propose dans le quotidien Libération une loi de sécurité alimentaire. Elle inclurait 5 fruits et légumes à prix bloqué et il souhaite interdire les fermes-usines au profit des cultures vivrières. 50 millions de Français vaccinés. Emmanuel Macron s'est même fendu d'un clip dans un tweet pour saluer l'événement. La France, qui avait beaucoup de retard au départ, juste après Morissette, se retrouve dans le peloton de tête des pays les plus vaccinés, mieux qu'Israël, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Aux États-Unis, justement, ce sont les animaux qui contractent le Covid. 6 lions et 3 tigres du zoo de Washington ont été testés positifs. Une nouvelle campagne de vaccination va s'adresser, cette fois, entièrement à eux. Le scandale des implants contraceptifs est sûr. Ce mode de contraception a été banni depuis 4 ans par les autorités sanitaires et pourtant les victimes n'ont pas encore toutes été répertoriées. L'association Résiste appelle même à la mobilisation cet après-midi, place de la République à Paris, car des milliers de femmes en portent encore, Véronique Julia.
Ces implants, on en a posé en France 220 000 depuis 2002. Ce sont des mini-ressorts, des sortes de stents métalliques qu'on implante dans les trompes et qui assurent une contraception permanente. Ça a pu être une alternative à la ligature des trompes pour des femmes qui supportaient mal pilules ou stérilets. Ça se posait en ambulatoire, pratique pour les femmes actives. Sauf que depuis 2016, des centaines de femmes ont rapporté d'importants effets secondaires, des douleurs, des saignements. L'implant n'est plus posé depuis 2017 et une partie de ces femmes se les ont fait retirer. Combien sont-elles? Difficile à dire, mais pour la présidente de l'association Résiste, Émilie Gillier, il est clair que toutes les porteuses de l'implant ne sont pas encore bien informées. Elle voudrait donc que l'assurance maladie communique et explique à ces femmes qu'en cas de problème, on peut leur enlever cet implant.
Qu'on reçoive encore des demandes d'information de personnes qui viennent seulement de s'apercevoir qu'elle pouvait être concernée par la problématique échue. On ne comprend pas que ce soit encore possible. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un courrier qui soit envoyé par la CPAM directement aux implantés. C'est ça qui va changer la donne.
Théoriquement, le retrait de l'implant supprime les problèmes de fatigue, de douleur et de saignement. On ne sait pas très bien d'où viennent les effets indésirables. Peut-être c'est une hypothèse des soudures du stent qui sont en état.
Véronique Julia.
Et vous, où partirez-vous en vacances? Alors la question paraît incongrue en pleine rentrée, mais on peut toujours s'y préparer.
Le secteur du tourisme se remet très doucement du Covid et la convalescence sera longue. C'est le constat qu'ont fait les professionnels réunis à Évora au Portugal pour le premier forum mondial du tourisme, Philippe Lefebvre.
Les professionnels du tourisme font ici preuve d'un optimisme mesuré. Certes, les indicateurs sont bons, mais le maintien de la fermeture de certaines destinations, les États-Unis ou l'Asie, pénalise encore le secteur, c'est ce que constate Kurt Annenbers, qui dirige une agence de voyage en Belgique.
On voit qu'il y a une demande pour partir en dehors d'Europe, mais les clients hésitent, et donc ça fait que dans la réalité, on a eu un été qui était beaucoup mieux que l'année passée, bien sûr, mais sur la fin de l'année, si on fait plus ou moins 35 à 40% du chiffre d'affaires de 2019, on sera tout content qu'on aura fait déjà ça.
Mais ici, tous affirment que l'envie de voyage est de nouveau là, même si le touriste a de nouvelles exigences, observe Bruno Despujol du cabinet américain Oliver Wyman.
Il a envie de rattraper le retard. Il a économisé pendant la crise. Il va dépenser, mais il va dépenser un peu différemment. Ça sera plus personnel, plus de la reconnexion sociale. Il va aller chercher des destinations un peu différentes, plus nature. Et je pense que c'est une grosse tendance des années à venir.
Et les changements devraient toucher tous les secteurs, y compris ceux des transports, selon Frédéric Van Hout, l'organisateur du forum.
Quand on trouve un vol Beauvais-Venise à 70 euros et que le Paris-Nîmes sur le TGV est à 100, je comprends que les gens aient envie de partir à Venise, mais il va falloir repenser également tout ça.
Et tous ces professionnels reconnaissent que plus que jamais, ils vont devoir concilier réalité économique et réalité environnementale.
Et pas besoin d'aller très loin ce week-end pour visiter des lieux inédits grâce aux Journées du patrimoine. Sachez que Notre-Dame de Paris est désormais sauvée. Le chantier entre dans sa phase de restauration. Les travaux sur la flèche commenceront au premier semestre de l'année prochaine. C'est ce qu'affirme ce matin le général Georges Lain en charge de la reconstruction de la cathédrale dans les colonnes du Parisien. Il entend bien tenir l'objectif de réouverture au public en 2024.
8h12, c'est l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
L'équipe de France féminine de football faisait donc sa rentrée hier. On peut dire que tout s'est bien passé.
Oui, on peut dire ça. 10-0 face à la Grèce, c'est bien. Il s'est passé pas mal de choses. Du coup, c'était rythmé comme match. Et c'était le premier match des éliminatoires au Mondial 2023 à retenir le triplé de Marie-Antoinette Katoto et le but numéro 10 sur pénalty inscrit par Wendy Renard qui retrouvait son brassard de capitaine. Chez les hommes, sixième journée de Ligue 1 et une soirée de fête hier à la Méno. Strasbourg bat Metz 3-0. Ambiance garantie aussi cet après-midi dans le derby du Nord entre Lens et Lille. Et puis ce soir, un duel de clubs historiques mais qui n'ont toujours pas gagné cette saison. Saint-Etienne, 19e contre Bordeaux, Lanterne Rouge.
À propos de clubs emblématiques, Laetitia, à la recherche d'une première victoire cette saison. En rugby, cette fois, La Rochelle défie Clermont.
Troisième journée de top 14 et ces deux prétendants au titre ont du mal à démarrer leur saison. Mais si La Rochelle a été pointée du doigt ces derniers jours, ce n'est pas à cause de ses résultats. C'est parce que le club se montre déjà très actif sur le marché des transfert pour la saison prochaine en débauchant des joueurs dans d'autres clubs du top 14. Cette pratique a encore du mal à être acceptée dans le monde du rugby, mais va bien falloir s'y habituer, explique l'ancien joueur et entraîneur adjoint des Maritimes, Sébastien Bouboule.
C'est vrai qu'à notre époque, c'était un peu différent. Quand on se sentait bien dans une équipe et dans un groupe ou dans une ville, on y restait. C'est mon cas, mais voilà, je crois que maintenant les transferts vont faire partie des mœurs dans le rugby comme l'était au foot, comme des entraîneurs qui arrivent en cours de saison, qui sautent pendant la saison, ça fait partie du métier et on fait avec. Voilà, il y a de plus en plus de médias maintenant aussi qui sont dedans, il y a des agents, donc c'est difficile après de garder des choses secrets, donc voilà, ça fait partie du job.
Les transferts comme au foot, mais alors vraiment pas avec des salaires aussi vertigineux que celui de Léo Messi.
Et ce salaire à l'origine de beaucoup, beaucoup de spéculations. Eh bien, selon les calculs du journal L'Équipe, la star recrutée en août par le Paris Saint-Germain va percevoir 30 millions d'euros net par saison.
Bon, et puis Laetitia, dans un autre registre, vous étiez hier matin sur la ligne de départ d'un défi sportif un peu particulier autour du sport santé.
Le Paris-Bucarest à vélo, c'est le défi de l'association Cassio qui accompagne des femmes malades du cancer par la pratique d'activités physiques adaptées. Nathalie David, la présidente de l'association.
Pendant les moments où vous faites votre une demi-heure ou 20 minutes de sport ou d'activité physique, je dirais plutôt ça, ça permet de changer d'idée, de se concentrer l'esprit sur quelque chose de nouveau et de sentir que son corps est encore capable, que son corps vit et qu'il n'est pas qu'en souffrance à cause des traitements.
Alors Nathalie, elle est en ce moment même maintenant sur les routes de ce Paris-Bucarest en relais, hein, aux côtés d'une dizaine de femmes qui font face au cancer et de membres de leur entourage. Vous n'imaginez pas l'enthousiasme, la joie qui se dégageait au moment de prendre le départ hier matin. Vous allez l'entendre avec Nathalie.
J'oserais dire qu'on a envie de voir ce qui va se passer derrière, quoi. Et de se dire, on va faire 3700 km, on va traverser toute l'Europe. Qu'est-ce qui nous attend, quoi? Et là, c'est l'aventure. Là, c'est pour moi, c'est la vraie aventure parce que je ne connais pas les chemins, je ne connais rien. Donc, ça va être juste, on sait où on va manger, où on va dormir et c'est tout. Donc, le reste après, on va être 100% découverte.
100% découverte. Il leur reste quand même 3500 km et quelques ce matin à condition de pas se perdre. Et l'arrivée à Bucarest, elle est prévue le 17 octobre.
Et puis, une petite indiscrétion. On sait maintenant pourquoi, Laetitia, vous ne serez pas à ce micro les premiers week-ends d'octobre puisque vous les rejoignez sur la partie Vienne-Bucarest en tandem.
Ouais,
bravo.
On va proposer de les accompagner.
Eh bien, on suivra ça avec intérêt. Laetitia Bernard, dans le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et aujourd'hui, Jean-Michel Golinski, c'est mieux à l'est.
Le temps sec est ensoleillé aujourd'hui près de la Belgique et le long des frontières de l'Est, tandis qu'à l'autre extrémité du pays, des pluies à bord de la façade atlantique, prenant même une tournure orageuse dès ce matin sur l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Au fil de la journée, cet arc pluvieux va lentement gagner la Normandie, le bassin parisien, le centre et du massif central au Roussillon. Les pluies généralement faibles au nord de la Loire seront quand même plus marquées et parfois orageuses dans la partie sud. En fin de nuit, on relevait 16 à 18 degrés près de l'océan, 18 à 20 sur l'arc méditerranéen et 10 à 15 en général sur les autres régions. Cet après-midi, sous le ciel dégagé, il fera 23 à Lille et Nancy, 24 à Dijon et Strasbourg, 25 à Lyon, 26 à 27 sur la Corse et du Golfe du Lion à la Provence. Mais sous les pluies de l'ouest, les valeurs vont perdre 3 à 5 degrés par rapport à hier.
Jean-Michel Golinski, Météo France.